Industriel. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan, au micro de Judaïsme Pluriel, pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. Ce soir, une brève histoire de la Slovaquie et de ses juifs. Avec Roman Gajdos et Jana Tesser. Le 25 novembre 2018, à l'occasion du 175e anniversaire de la création du Bnei Brit, eut lieu à Marseille une conférence donnée par Roman Gajdos, vice-président de la loge Concordia de Košice en Slovaquie, manifestation présidée par Francine Cohen, présidente de la loge Émile Zola, vice-présidente du Bnei Brit France, et membre du comité exécutif du Bnei Brit Europe. Était présent et venu de Košice, en Slovaquie, Roman Gajdos, Thomas Tesser, président de la loge Concordia, et Jana Tesser, son épouse. Le thème était « Une histoire de la Slovaquie et de ses juifs » et en deuxième partie, « Un tour d'horizon des principaux lieux de culte israélite de Košice » par Jana Tesser. Je les ai immédiatement invités à ce micro, mais malheureusement, ils repartaient en Slovaquie dès le lendemain. J'ai donc enregistré pour vous cette conférence en direct. Certes, la qualité technique n'est pas excellente, il n'y avait aucune préparation, mais le sujet compense en partie ce défaut. Donc, en première partie, c'est Roman Gajdos qui exposera l'histoire de la Slovaquie et de ses juifs. Je rappelle que Roman est interprète, traducteur des instances internationales, interprète assermenté et bien sûr membre du Bnei Brit de Košice. Écoutons Roman.
Même si ma présentation s'appelle la Shoah en Slovaquie, j'ai compris ce sujet de manière un peu plus vaste. Pour vous expliquer où la Slovaquie se trouve, quelle est l'histoire de la nation slovaque, et quelle est la position et le statut des juifs en Slovaquie. Parce que comme vous verrez bien, il y a pas mal de différences entre l'identité juive en France et en Slovaquie. Et la Slovaquie? La Slovaquie, c'est ce petit pays au cœur de l'Europe. Donc nous sommes situés en Europe centrale. On est très fâchés lorsque quelqu'un dit que c'est l'Europe de l'Est. Pour nous, ça fait une sacrée différence. Parce que l'Est, c'est déjà l'Ukraine, c'est la Russie, c'est la Turquie. Mais nous, avec la Tchéquie, avec la Pologne, la Hongrie, nous faisons donc partie de l'Europe centrale. Donc la Slovaquie, 5 millions et demi d'habitants seulement. Les Slovaques font partie des nations slaves, comme les Slovènes, les Croates, les Serbes, les Russes, les Ukrainiens, les Tchèques, les Polonais. Il est difficile de dire à quel moment dans l'histoire il y avait quelqu'un qui a dit « je suis slovaque » et non pas slave. Parce qu'il y avait cette base commune, une tribu slave qui est arrivée en Europe, de la Russie. voilà, là où il y a aujourd'hui le Kazakhstan, où il y a d'autres pays. C'était donc vers le XVIIe siècle, quand il y a la première trace écrite que quelqu'un a utilisé le mot slovaque. Donc, en comparaison avec votre histoire, les Slovaques existent depuis 4 siècles. Et il faut ajouter tout de suite que les Slovaques vivaient pendant la plupart de leur histoire dans l'Empire austro-hongrois, sans aucune autonomie, sans aucune indépendance. Empire austro-hongrois, vous connaissez, vous le savez bien, comprenez beaucoup de nations, beaucoup de minorités, comme par exemple les Serbes, les Croates, ou toutes les nations de l'ex-Yougoslavie. L'Empire austro-hongrois existait jusqu'en 1918, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais revenons un peu en arrière. Donc vous voyez, la Slovaquie n'a fait qu'une petite partie de l'Empire austro-hongrois, ensemble avec la Tchéquie, avec l'ex-Yougoslavie, avec l'Autriche, une partie de la Pologne. Et les Slovaques étaient considérés comme une petite minorité ethnique dans les montagnes. Donc c'était des montagnards avec leur tradition, leur culture, mais pourtant la culture qui dominait le territoire, c'était la culture hongroise. Les écoles étaient hongroises, les administrations étaient hongroises, donc les Slovaques quasiment n'existaient pas. Et c'était jusqu'à 1918. C'était plutôt des agriculteurs, comme vous pouvez le voir, avec leur tradition, leur costume très spécifique. Avec le démantèlement de l'Autriche-Hongrie en 1918, pour la première fois, les Slovaques se sont émancipés partiellement. Pourquoi partiellement? Parce que la première Tchécoslovaquie a été créée. C'était donc le premier État des Tchèques et des Slovaques. Très souvent, les Français me posent la question, mais quelle est la différence entre les Tchèques et les Slovaques? Donc pour vous répondre, il s'agit de deux nations avec deux langues différentes, le Tchèque et le Slovaque. Mais on vivait en Tchécoslovaquie, d'abord la première Tchécoslovaquie, après la deuxième Tchécoslovaquie jusqu'en 1993. Donc on est complètement bilingue, même s'il s'agit de deux langues différentes. Les Tchèques, ils sont plutôt protestants, les Slovaques, ils sont plutôt catholiques. Les Tchèques, ils sont plus intellectuels, les Slovaques, ils sont plus religieux. Mais la première Tchécoslovaquie, c'était une tentative d'avoir une fédération des deux nations. Ici, c'est la capitale de la première Tchécoslovaquie, que vous connaissez bien, c'est Prague. Bratislava, c'est ici, c'est la capitale de la Slovaquie d'aujourd'hui. Et Košice, c'est quelque part ici. Cette partie appartient aujourd'hui à l'Ukraine. C'est la Transcarpathie. Les Slovaques disent que l'oppression hongroise a été remplacée par l'oppression tchèque. Ce sont les nationalistes qui le constatent. Pourquoi? Parce que l'éducation nationale slovaque n'existait pas. Les institutions slovaques n'existaient pas. Donc c'était les Tchèques qui étaient très souvent enseignants en Slovaquie, policiers, fonctionnaires. Comme la Tchéquie était beaucoup plus développée, il y avait l'université de Charles, ou l'université Charles à Prague. Donc il y avait les gens éduqués, diplômés des universités. C'était eux qui s'installaient en Slovaquie pour assurer le fonctionnement de l'administration d'État. Mais pourtant, pour la première fois, les Slovaques avaient leur représentation, avaient leurs ministres, avaient leurs écoles, leurs institutions. Les Juifs en Slovaquie. Il semble que les premiers Juifs soient arrivés avec les légions romaines sur le territoire de la Slovaquie d'aujourd'hui. Mais la première trace écrite ne date que de 11e siècle, du 11e siècle. Pour les Juifs, s'il y a deux informations à retenir, pendant l'Autriche-Hongrie, vous savez quelle famille royale était au pouvoir? Les Habsbourg. Et c'était les temps difficiles pour les Juifs parce que les Habsbourg ont interdit aux Juifs certains métiers. Il y avait seulement certaines professions qu'ils pouvaient exercer et ils étaient ce qu'on appelle seulement des usufruitiers, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des vrais possesseurs de la terre. Ils ne pouvaient pas posséder de la terre arable. Pour cette raison, ils ne connaissent pas, ils sont très détachés du monde rural ou de l'agriculture. Donc il n'y a aucun agriculteur juif en Slovaquie parce que c'était toujours interdit, c'était plutôt des professions intellectuelles. Pendant tout l'Empire austro-hongrois, ce rabbin à gauche, Khatam Sofer, est un grand rabbin, un savant, qui s'est installé à Bratislava au début du 19e siècle. C'était un génie. Il est entré à la yeshiva à l'âge de 9 ans. Après, il est devenu le grand rabbin de Bratislava. Les rabbins du monde ou de l'ordre entier venaient demander l'aide. Aujourd'hui, il est enterré à Bratislava. Voici sa tombe, son tombeau, qui est devenu le lieu de pèlerinage des Lubavitch. Pour les Lubavitch, sa tombe est le troisième lieu le plus sacré dans la culture israélite. Donc il y a des foules et des foules de juifs orthodoxes d'Israël, des États-Unis qui viennent se recueillir sur sa tombe aujourd'hui. Et la synagogue à Bratislava, Bratislava la capitale slovaque. Les années passent, Hitler accède au pouvoir en Allemagne, il commence, Hitler, à revendiquer cette partie de la Tchécoslovaquie, cette partie qui est appelée les Sudètes. Pourquoi? En Sudètes, les Allemands ont la majorité. Il y a trop de minorités. Ce concept n'existe pas en France, le concept des minorités ethniques. En France, vous êtes soit français, soit étranger, n'est-ce pas? Mais en Tchécoslovaquie et en Slovaquie d'aujourd'hui, on peut bien être slovaque de nationalité allemande, hongroise. On distingue l'appartenance au pays, la citoyenneté et la nationalité. Jusqu'à maintenant, c'est le cas. Donc aujourd'hui, on peut choisir sa nationalité. Chacun choisit sa nationalité par déclaration. Donc je peux être un jour slovaque, demain je peux être juif. C'est ma nationalité, mais si j'ai mon passeport slovaque, je suis le citoyen de la Slovaquie. Et voilà, c'est le concept des minorités ethniques. Et Hitler commence à revendiquer cette partie qui s'appelle les Sudètes. Et par l'accord de Munich, le 29 septembre 1938, les représentants de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Italie ont complètement scellé l'histoire de la première Tchécoslovaquie. Et pour cela, nous appelons cet accord la trahison de Munich. Parce qu'ils ont signé l'accord en disant que la Tchécoslovaquie est obligée de céder les Sudètes à l'Allemagne et toute cette partie à la Hongrie. Et ce qui est aujourd'hui la Tchéquie, ou Bohème si vous voulez, est devenu le protectorat. Et la Slovaquie est restée autonome. Pas encore indépendante, mais autonome. Donc vient l'année 39. Joseph Tiso, c'est un prêtre catholique, d'abord député au Parlement tchécoslovaque, après premier ministre slovaque. Il est appelé à Berlin par Hitler et il a le choix, soit de promouvoir l'indépendance de la Slovaquie, mais comme état satellite de l'Allemagne nazie, donc comme l'état dépendant de l'Allemagne, ou Hitler a proposé de morceler la Slovaquie entre la Pologne et la Hongrie. Donc, lui, Tiso, il est d'accord, et il rentre à Bratislava et demande au Parlement slovaque la proclamation de la Slovaquie indépendante. Avec lui comme son futur président. Donc le 14 mars 1939, la Slovaquie indépendante est déclarée avec M. Joseph Tiso comme son président. Revenons à la position des Juifs. Pendant l'existence de l'Empire austro-hongrois, et ça c'est important, il n'y avait que deux nations qui dominaient les Autrichiens et les Hongrois. Toutes les autres nations étaient sous l'oppression de la Hongrie ou de l'Autriche. Et les Juifs, dans l'Empire, ils voulaient à tout prix éviter d'être la double minorité. Être juif et slovaque. Donc, et pour cette raison, la majorité écrasante des juifs se disait hongrois. Pourquoi? Parce que pour éviter ce statut d'infériorité, être une double minorité. Et pour cette raison, ils étaient toujours très très mal vus par les Slovaques. Les Juifs étaient vus toujours comme un élément étranger. C'est celui qui n'aime pas les Slovaques, c'est celui qui est usurier, c'est celui qui veut exploiter les nations slaves. Et dès l'acquisition de l'indépendance, en 1939, la situation des Juifs s'est durcie. D'abord, un code juif a été promulgué. Monseigneur Tiso, prêtre catholique et président, a déclaré « Je suis fier d'avoir un code anti-juif encore plus dur que le code nazi. » Et regardez quelle était la teneur de ce code. D'abord, les Juifs devaient porter cette étoile jaune. Ils devaient porter un brassard jaune. Ils ne pouvaient pas entrer dans les parcs. Ici, devant le parc, en place centre-ville de la capitale de Bratislava, écrit « Interdit aux Juifs ». Ici, « Magasin non-juif ». Plus tard, il y avait la loi sur l'arianisation. Je ne sais pas si vous connaissez le mot arianisation, promulgué en Slovaquie. 72% des Juifs ne pouvaient plus vivre de leurs biens. Leur commerce, leurs usines étaient saisies. Et ils étaient remplacés par des Slovaques. Ceux qui étaient très proches du parti au pouvoir recevaient gratuitement les fonds de commerce juifs. Et pour cette raison, les Juifs se sont beaucoup appauvris. Ils ont perdu leur indépendance économique. Et cela concernait quelques dizaines de milliers de Juifs sur le territoire slovaque qui ne pouvaient plus entrer dans les parcs, dans les cafés. Ça, c'était très, très douloureux pour les Juifs, ne pas pouvoir entrer dans les cafés. Parce que les Juifs aimaient passer leur temps dans les cafétérias, voilà, dans les cafés. Là, c'est connu que c'est comme ça. La propagande. La propagande était omniprésente. Regardez ces peintures sur les murs. Donc, stéréotype d'un vieux juif ou ici, l'étoile de David. Juif, et puis la même chose en allemand ou en yiddish. Ici, c'est tiré d'un journal. La nation est en colère. Les juifs dévorent tout. Et encore une image d'un juif qui mange le pain, la farine, le beurre. Et les pauvres Slovaques ne font que regarder cet ogre juif qui mange tout. Et puis, encore une caricature, un juif qui est assis sur le pot de chambre, et sur le pot de chambre écrit les Slaves, les nations slaves. Et puis, un article tiré d'un journal aussi de l'époque. Un juif restera toujours juif. Voilà, donc il s'était toujours présenté comme un élément qui veut nuire la nation. Et comme j'ai dit, à cause de l'arianisation, les juifs se sont appauvris. La seule solution était de les mettre dans les camps de travail. Qui existait en Slovaquie, il y en avait 80. Donc il y avait 80 camps de travail avec 10 000 personnes internées. Hitler a envoyé en Slovaquie son plénipotentiaire pour la question juive ou la solution finale. Il s'appelait Dieter Wislicheny, membre de l'organisation SS. Vous voyez sa citation. Donc, si on prive 90 000 juifs en Slovaquie de leurs biens, si on coupe leurs revenus, il apparaîtra un problème juif dont la seule solution est la déportation. Donc, c'est le plénipotentiaire pour la question juive en Slovaquie qui a dit ça. C'était. En 1941, au mois de janvier. Le premier transport a été organisé au mois de mars 1942. Le train, il était composé des wagons à bestiaux, est parti de la ville de Poprad. C'est à l'est du pays, dans les montagnes slovaques, pour Auschwitz. La version officielle a été... on transporte les Juifs vers l'Allemagne dans les camps de travail. Et ils ont rempli ce train par 1000 femmes, jeunes femmes de 15 jusqu'à 35 ans. Voilà. Les nazis proposent aux autorités slovaques de déporter tous les Juifs slovaques sur le territoire du Reich. Et maintenant, écoutez, moyennant une redevance de 500 Reichsmark. Donc, c'était la monnaie de l'époque. Par tête. Donc, la Slovaquie était le seul pays en Europe, le seul pays indépendant, on ne dit pas des pays qui étaient sous l'Allemagne nazie, mais la Slovaquie était indépendante. C'était le seul pays qui a déporté ses juifs, mais c'était encore le seul pays qui a payé pour la déportation. Ils ont payé à l'Allemagne les frais de transport. 500 Reichsmark. Mm-hmm. Voilà, je ne sais pas à combien correspond ou correspondrait aujourd'hui cette somme. Voici quelques statistiques, quelques chiffres. De mars 41 jusqu'au septembre 41, donc en 6 mois ou peut-être moins, il y avait 57 transports. Il y avait 57 personnes transportées et les sommes que la Slovaquie a payées. La Slovaquie a payé à l'Allemagne nazie et à la société des chemins de fer pour les transports dans les wagons à bestiaux. Après, les déportations se sont arrêtées. Vers la fin de l'année 41, les déportations se sont quasiment arrêtées parce qu'il y avait certains métiers, certaines professions que les Juifs exerçaient et pour cette raison, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre tous les médecins, par exemple, ou les avocats non, parce qu'ils ne pouvaient plus être avocats, mais surtout les médecins, il y avait la pénurie de médecins à cause de la déportation des Juifs. Si vous permettez encore la dernière citation de Monseigneur Tissot, président de la République. Le 18 août 1942, il déclare dans le journal slovaque: est-ce chrétien ce qui se passe? Est-ce humain? Mais je demande, est-ce chrétien quand le peuple slovaque veut se débarrasser de son ennemi éternel, les Juifs? Est-ce chrétien? L'amour de soi est un précepte divin, et cet amour m'ordonne de me débarrasser de tout ce qui me nuit, de tout ce qui me menace et tout ce qui menace ma vie. Et que l'élément juif menace la vie des Slovaques, je pense qu'il n'est pas besoin d'en convaincre quiconque. Voilà, c'était la citation du président slovaque à l'époque. Très brièvement, je mentionnerai encore le soulèvement national slovaque, événement qui s'est produit au mois d'août 1944. C'était seulement 9 mois avant la fin de la guerre. Il n'était pas encore évident que l'Allemagne allait perdre la guerre, mais il y avait l'armée nazie, il y avait Wehrmacht sur le territoire slovaque. Une partie de l'armée slovaque déserte. Ils organisent ce soulèvement contre les nazis et contre le président. Très vite, très rapidement, seulement en quelques semaines, ce soulèvement est maîtrisé par, bien sûr, l'armée allemande. Mais grâce à ce soulèvement, la Slovaquie est toujours mentionnée parmi les États qui ont gagné la guerre et non pas parmi les vaincus. Parce que le peuple slovaque s'est volontairement soulevé contre le pouvoir et contre les nazis qui étaient fortement présents en Slovaquie. D'accord. On va maintenant faire un grand saut dans le temps. La Slovaquie d'aujourd'hui. La Slovaquie a adhéré à l'Union européenne en 2004. Donc ça fait déjà 14 ans qu'on est membre, comme la France, de l'Union. On est dans la zone Schengen. Donc on bouge facilement. On est dans la zone euro. Mais j'ai oublié encore de dire que la Slovaquie a acquis l'indépendance de la Tchéquie le 1er janvier 1993. Et c'était une séparation très paisible, très, disons, sans effusion du sang. Et jusqu'à maintenant, les Tchèques sont les meilleurs amis des Slovaques. Les Slovaques sont des meilleurs amis des Tchèques. On s'entend parfaitement. À l'époque, il y avait beaucoup de discussions, comment ça allait se passer, parce que la Slovaquie était petite, sous-développée, il n'y avait pas l'industrie et tout. Aujourd'hui, économiquement parlant, la Slovaquie se porte bien. Et si vous permettez, je vais faire quelques parallèles maintenant avec l'histoire, avec le passé. La Slovaquie, en 2018, la Slovaquie de cette année, au mois de février, un journaliste d'investigation donc, qui menait des enquêtes, c'était un journaliste d'investigation qui menait des enquêtes sur les liens entre la mafia et le gouvernement slovaque. Il faisait des investigations sur la corruption en Slovaquie, a été tué. Ils l'ont trouvé un jour tiré par balle. Avec sa copine, avec sa fiancée dans leur maison. C'était au mois de février de cette année. Ils ont trouvé dans son ordinateur des articles qui n'ont pas encore paru dans la presse, dans lesquels il a voulu dévoiler les liens entre les hommes politiques slovaques, je ne dis pas le Premier ministre, mais presque, avec la mafia locale, des magouilles avec les fonds européens, avec les subventions, les subventions agricoles. Voilà. Mais du coup, il a été tué. Et on ne sait pas pour quelle raison il a été tué. On ne sait pas s'il n'y a pas une autre information qui n'a jamais été dévoilée. Suite à cet événement, il y avait un mouvement citoyen très important. Les gens avaient marre de la corruption, ou aussi de la pénétration de la crime organisée dans la politique. Ils ont commencé à organiser des rassemblements, des manifestations un peu partout. Donc ici sur la photo vous voyez Mafia get out of my country, Mafia dégage de mon pays. Ici all for Jan. Nous sommes tous pour Jan. Il s'appelait Jan, le jeune journaliste. Il avait 28 ans. Et ici, sur la banderole, les citoyens pour une Slovaquie décente. Et du coup, le Premier ministre, il apparaît à la télé en disant « Je sais pertinemment que c'est un mouvement qui est orchestré par George Soros. » Un juif hongrois, un juif américain d'origine hongroise, qui, comme il est hongrois, il subventionne beaucoup, il finance beaucoup le monde associatif dans ces démocraties émergentes comme la Hongrie, comme la Pologne, comme la Slovaquie. Et du coup, il a été accusé d'avoir orchestré un coup d'État et que c'est lui qui finance tous ces jeunes, parce que c'était surtout des jeunes qui sont sortis dans la rue pour protester contre la corruption. Donc encore une fois, on revit ce qu'on a vu pendant la guerre. La caricature d'un vieux juif qui est derrière tout. Et qui finance un coup d'État contre le pouvoir slovaque. Vous connaissez surtout, je suis sûr que vous connaissez cette compétition, le plus grand français de tous les temps. En France, il y a quelques années, à la télé, à je ne sais pas quelle chaîne c'était, il y avait une compétition, le plus grand français de tous les temps. C'était Général de Gaulle qui a gagné. Cette émission existe dans de nombreux pays parce que on peut acheter la licence pour organiser dans son pays cette compétition le plus grand chez nous, Slovaque, de tous les temps. Chez vous, c'était Général de Gaulle qui a gagné. Chez nous, on ne sait pas encore, mais la télévision nationale slovaque, la première chaîne de notre télévision nationale qui appartient à l'État, pour faire la publicité à cette émission, a utilisé la photo de Monseigneur Tissot en disant Joseph Tissot, criminel de guerre, nazi ou martyr, parce qu'il a été exécuté à mort. En 46, par le tribunal indépendant, il a été reconnu coupable de la génocide et il a été pendu. Et comme il était prêtre catholique, il y a des voix qui grandissent que c'est un martyr, parce qu'il s'est sacrifié pour les Slovaques. Vous vous souvenez, j'ai dit, il a été convoqué par Hitler au mois de mars 1939, qui lui a dit soit la Slovaquie devient indépendante, soit la Slovaquie est divisée entre la Pologne et la Hongrie, et la Slovaquie aurait disparu. Mais il était bien au courant de tous les événements, des déportations. C'est lui qui a dit est-ce que c'est chrétien de se débarrasser des juifs qui nuisent la Slovaquie. Et aujourd'hui, il y a cette tentative de le martyriser. Donc, heureusement, il y avait beaucoup de contestations, il y avait beaucoup de critiques. Donc, ils ont finalement, quelques jours plus tard, ils ont supprimé cette publicité et ils ont interdit de voter pour lui, d'envoyer les SMS pour lui. Parce qu'ils ont ajouté une clause dans les règles de cette compétition. On ne peut pas voter pour quelqu'un qui a été condamné. Voilà. Et du coup, ils ont exclu la personne. Donc, c'est pour vous montrer que la Slovaquie n'a pas encore fait ce point final, comme l'Allemagne a déjà fait. L'Allemagne a dit, oui, ce qui s'est passé, c'était horrible. Ils n'essayent pas de relativiser les événements. Et pour cela, les Slovaques ne peuvent pas encore être considérés comme une nation moderne qui peut viser l'avenir. Il faut que les Slovaques acceptent leur part de la responsabilité, qu'ils disent, oui, ce qui s'est passé, c'est notre faute. On a envoyé 70 000 juifs slovaques dans les camps d'extermination à Auschwitz. Mais aujourd'hui, nous sommes une nation moderne et démocratique. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ils relativisent toujours, oui, il y avait des choses contre l'humanité, mais, il y a toujours ce mais. Mais, l'économie marchait bien pendant la guerre, le président n'a pas eu le choix. Il y a toujours un mais, et il faut que ce mais disparaisse. Voilà. Mais j'espère que je n'étais pas trop pessimiste, parce que vous êtes les bienvenus en Slovaquie, et donc pour vous convaincre qu'il faut absolument venir en Slovaquie. Je laisse la parole maintenant à Yana, à notre sœur Yana, qui vous parlera maintenant en slovaque, je traduirai, mais qui vous présentera les monuments historiques de Košice, Mais on va s'entraîner un peu. La prononciation de notre ville, c'est Košice. Ensemble, Košice. Parfait. Košice.
Écoutez l'émission Judaïsme pluriel et ce soir, après cet exposé de Roman Gajdos, vous venez d'entendre le groupe Kachoer, Klezmer Band, pour un morceau de Klezmer à la façon de Košice. Et tout de suite, nous poursuivons en donnant la parole à Yana Tesser pour une visite des principaux sites israélites de Košice. Yana Tesser est ex-proviseur du plus grand lycée de Košice. Aujourd'hui à la retraite. Elle assure maintenant bénévolement la fonction de guide des lieux culturels juifs de Košice ainsi que leur gestion. Yana ne parle pas français, c'est Roman qui traduira en simultané. Alors pour alléger le propos, j'ai supprimé toutes ces explications en slovaque pour ne garder que la traduction de Roman. Un travail de dentelle, certes, mais avec quelques petits défauts quand même. Veuillez me pardonner. Donc, lors de son exposé, Yana a passé aussi quelques diapos. Et ça, pour le moment, à la radio, on ne peut pas les passer. Mais je pense que ces descriptifs sont assez précis. Alors, nous allons écouter Yana.
Et maintenant, nous avons déjà commencé à préparer votre voyage, n'est-ce pas? Donc, permettez-moi de me présenter. Donc, comme vous le savez déjà, je m'appelle Yana et je suis prof au lycée. Je suis enseignante depuis 47 ans. Donc, j'ai 47 ans d'ancienneté. Mais aussi, je suis bénévole dans une des synagogues de Košice et j'organise des petites conférences pour les lycéens. Et j'ai contribué également à l'ouverture d'une petite galerie d'art juif, où je suis conservatrice.
A teraz budeme chystať cestu do Košic.
Et maintenant, on prépare votre voyage à Košice, d'accord? Košice, c'est une ville historique. C'était une ville royale libre. Et dans les villes royales libres, les Juifs ne pouvaient pas vivre. Donc, ils vivaient toujours au-delà des remparts. Les Juifs venaient quasiment tous les jours à Košice. Ils étaient commerçants, ils vendaient des produits, mais quand la nuit est tombée, ils devaient regagner leur petit village autour de la ville. Donc, à un moment donné, ils ont reçu le feu vert. Ils ont pu s'installer à Košice. Ce dont ils avaient besoin, une synagogue, n'est-ce pas, un cimetière et un lieu de rassemblement. La plupart des Juifs étaient orthodoxes, assez pratiquants, qui vivaient à Košice. La première synagogue, la toute première synagogue est celle-ci à gauche, qui a été construite à Košice. Elle a été construite en 1866 et c'est pour une des trois mouvements qui existaient parmi les Juifs, qui s'appelait statut quo. Malheureusement, même si elle était très belle, parmi les plus belles en Europe centrale, elle a été rasée en 1958. Elle n'existe. Mais juste à côté, au milieu, une autre synagogue construite en 1883.
Vedla, vidíme interiér tejto synagogy.
Vous voyez son intérieur en bas.
Táto synagoga bola niekoľkokrát prebudovaná, pretože sa zväčšovala.
Cette synagogue a été plusieurs fois rénovée, non seulement rénovée, mais elle a été agrandie.
Je v areáli židovskej obce.
Et elle se trouve au milieu de la communauté juive à Košice. Donc il y avait un mikvah, on dit une ou un mikvah. Après la guerre, elle est restée complètement vide. À l'intérieur, il n'y avait rien. Et malheureusement, la bibliothèque nationale, on l'appelle la bibliothèque scientifique, a commencé à utiliser ces locaux comme dépôt des livres. Et ils ont mis le chauffage à gaz. Ils ont tout abîmé pour installer le chauffage à gaz. Aujourd'hui, nous avons réussi à partiellement rénover l'intérieur. Malheureusement, la communauté juive de Košice ne dispose pas des fonds. Et la deuxième question se pose, pour qui il faudrait la rénover? Il y a encore deux synagogues à Košice, construites en même année.
Táto synagoga, ktorá je na ľavej strane, je ortodoxná synagoga.
Celle-ci à gauche, c'est la synagogue orthodoxe.
Je po rekonštrukcii.
Elle est complètement rénovée.
Má veľmi pekný interiér a dvakrát do roka je tu tam bohoslužby na Rosh Hashanah a na Yom Kippur.
Elle est utilisée seulement deux fois par an pour Rosh Hashanah et Yom Kippur. Pour les grandes fêtes.
Vidíte tam pri tejto synagóge napravu, tam bola židovská škola. Tam celkom tam, áno.
Juste à côté, c'était une yeshiva. À l'époque.
Tak. Žiaľ Bohu, táto synagóga, židovská obec túto synagógu predala nedávno.
La communauté, je dis malheureusement, c'était leur décision, a vendu le bâtiment.
Ale keď príte do Košic, tak ja vám ten interiér ukážem, budete veľmi
prekvapení. A Košice, vous serez vraiment émerveillé par les décorations à l'intérieur.
Napravo, čo vidíte?
Le bâtiment a été construit en 1927, comme celui-ci. Et on dit que c'est la synagogue néologique. En France, vous n'utilisez pas, n'est-ce pas, chez nous, la communauté, parce que bah, bien sûr, ils se disputaient tout le temps. Il y avait trois groupes, les orthodoxes, les néologues et status quo. Donc ceux qui ne veulent rien changer, après, néologues ça veut dire libéraux et les orthodoxes. En 1954, la synagogue a été vendue à la municipalité de Košice. Depuis 22 ans, la communauté essaye de gagner un litige. Nous avons saisi le juge pour engager un litige contre la mairie de Košice. Et nous revendiquons cette synagogue en disant que le contrat n'a pas été équilibré et que c'était une vente forcée. Aujourd'hui, le bâtiment abrite une salle de concert et c'est le siège de l'Orchestre Philharmonique de Košice.
Obi dvoch synagogách je absolútna akustika.
Parce que l'acoustique est parfaite dans les deux bâtiments.
Ideme ďalej. A teraz by som vám krátkosti povedal niečo o tomto maličkom gigantovi.
Permettez-moi de vous présenter ce petit bonhomme, on ne voit pas bien, Ludovic Feld, petit grand héros. C'est un peintre, dessinateur, né en 1904. Et à l'âge de 7 ans, il a cessé de, de grandir. Comme tous les Juifs de Košice, lui aussi, il a été déporté à Auschwitz.
S celou svojou rodinou.
Avec sa famille entière.
9 děti.
9 enfants. Mais lui, il était comme un enfant. Donc il a été confondu d'abord avec les enfants. Mais après, quand il a été découvert qu'il y a un adulte, mais petit, il a rejoint l'hôpital l'équipe du docteur Mengele, qui faisait des essais. Docteur Mengele, il voulait d'abord faire des essais. Pourquoi il ne grandit pas? Pourquoi il est si petit? Mais après, il a découvert son talent, son don pour dessiner. Donc, il est devenu son dessinateur personnel. Donc, il dessinait, comme les appareils photo n'existaient pas ou n'étaient pas disponibles. Donc, il dessinait toutes les atrocités, toutes les opérations, tous les essais que Mengele faisait. Il était toujours à côté de lui. Mais son talent, lui, a sauvé sa vie. Parce qu'il n'a jamais été envoyé dans la chambre à gaz parce qu'il dessinait. Pendant tout le temps qu'il était à Auschwitz, il est décédé à Košice en 1991. Pour ne jamais oublier les atrocités, pour ne jamais oublier les victimes et pour ne jamais oublier ce personnage insolite, nous avons créé une galerie à Košice qui lui est dédiée. C'est une petite galerie à l'intérieur ou dans la cour de la synagogue. C'est la seule galerie en Tchéquie et en Slovaquie qui n'expose que des tableaux des auteurs juifs. Il faut absolument mentionner la mécène, c'est une femme, une juive qui vit aujourd'hui aux États-Unis mais qui est native de Košice. C'est elle qui a contribué surtout financièrement à la mise en place de cette galerie. Il y a de nombreux tableaux de Ludovic Feld lui-même, mais aussi des autres peintres juifs importants. Donc au total, il y a 51 tableaux.
Ten horný obraz, to je centrum města.
Ça, c'est le centre-ville de Košice.
A ten dolný obraz, to je Auschwitz.
Ça, c'est Auschwitz.
Keď otec sa lúči so svojím synom, lebo ako vidíme vzadu
idú. Donc, vous voyez les cheminées,
dopliny.
Les chambres à gaz, et c'est adieu. C'est le dernier adieu du père qui embrasse son fils, qui est directement envoyé, comme tous les enfants d'ailleurs, dans la chambre à gaz. Donc, grâce à cette mécène, Madame Fischbaum, nous disposons de nombreux tableaux sur la Shoah en Slovaquie. Nous avons réussi à louer un petit parc en plein centre-ville de Košice qui porte désormais le nom de Park Feld. D'après lui, c'était son nom de famille, Monsieur Feld.
A teraz, pred dvoma mesiacmi, sme odhalili zase pamätník Ludovita Felda.
Et dans ce parc, il y a deux mois, nous avons inauguré ce mémorial de Monsieur Feld.
Našou úlohou je nezabudnúť na neho, ani na nikoho, kto zahynul v koncentračnom tábore.
Pour que sa mémoire ne soit jamais oubliée, pour qu'on n'oublie pas les victimes qui ont péri dans la Shoah. Ce parc sera dédié non seulement à lui, mais à tous les artistes de Košice.
Že bude sa volať ďalej Feldov park, ale bude to Art Park.
Donc plus tard, ce parc deviendra Art Park, c'est-à-dire avec plusieurs objets d'art qui sont situés dans ce parc. Vous savez, pour une enseignante, il est difficile de le faire en si peu de temps, parce que je suis bavard. Mais j'espère pouvoir vous accueillir bientôt à Košice. Et là, je ne m'arrêterai jamais.
Merci.
Merci de votre attention.
Voilà, pardon pour toutes ces imperfections techniques, mais c'est un enregistrement fait en direct et sans préparation. Je crois qu'il méritait d'être diffusé. Merci à Roman Gajdos pour sa conférence, pour la traduction simultanée de l'exposé de Yana. Merci à... Yann Tesser, à Yana Tesser, et oui, Yana, nous allons faire un voyage à Košice avec plaisir. C'est donc un enregistrement en direct à l'occasion des 175 ans de la création du Bnei Brit. Merci à Francine Cohen de nous avoir accueillis pour cette soirée. Et nous, chers amis, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Bonsoir à tous, laissons la place maintenant à Musique à Thème. Bonsoir.
Radio JM 90.5.